Georges Beauséjour, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes psychologue, chef professionnel du service de psychologie du CHU Sainte-Justine. On parle aujourd'hui avec vous de l'impact d'avoir un frère ou une sœur handicapée au sein de notre famille, donc l'impact sur la fratrie. Tout à l'heure, Georges, je parlais de Sochi 2014 lorsque... le skieur Alexandre Bilodeau est allé littéralement rejoindre son frère qui vit avec la paralysie cérébrale. Un exemple assez probant qu'avoir un frère ou une sœur handicapée, ça peut être une grande richesse dans la vie.
Oui, tout à fait. Je pense que il y a les deux. Avoir un frère et une sœur handicapée, c'est une richesse et ça peut apporter beaucoup au niveau du développement de la personnalité de ces frères et sœurs-là. Mm-hmm. Dans le sens que la richesse, c'est aussi de pouvoir vivre une expérience quand même assez différente et de voir comment eux peuvent s'investir dans cette relation frère et sœur, même si on se dit que ce frère-là ou cette sœur-là est différente.
Oui.
Par contre, il y a aussi des enjeux quand même particuliers reliés au fait que le frère ou la sœur présente un handicap aussi.
Oui.
Et je pense qu'on devrait aussi être spécifique dès le départ aussi. Il s'agit de bien savoir de quel handicap s'agit-il. Est-ce que c'est un handicap léger? Est-ce que c'est un handicap moyen ou un handicap sévère? Et ça, c'est d'une grande importance pour, l'implication des parents et, la vie familiale en général.
Oui. Avoir un frère ou une sœur handicapée, Georges Beauséjour, j'imagine que ça amène un mélange d'émotions, de la honte, de la peur. Qu'est-ce qu'un enfant peut ressentir?
Bien, en fait, spontanément, il peut ressentir toute cette gamme d'émotions. Et en même temps, ce que je souhaiterais préciser aussi, c'est que les émotions qu'on peut retrouver chez la fratrie sont en quelque part guidées par les émotions que les parents vont dégager eux-mêmes.
Mm-hmm.
Les parents ont évidemment encore là un rôle central, c'est-à-dire comment eux vont se positionner par rapport à l'arrivée d'un enfant handicapé. Bien souvent, et on pourrait dire tout le temps, les parents ne souhaitent pas et ne s'attendent pas à avoir un enfant handicapé. Mais quand la réalité est telle, alors là, il s'agit de voir comment et la mère et le père vont réagir à cet ajustement, parce que effectivement, il faut être prudent dans les mots. Est-ce que c'est un ajustement? Est-ce que c'est une acceptation? Est-ce que c'est mieux composer ou savoir comment composer avec un enfant différent? Moi, j'accorde beaucoup d'importance au terme, mais il reste quand même que l'arrivée de cet enfant va provoquer des réactions qui sont tout à fait légitimes, comme ne serait-ce qu'un choc, ne serait-ce qu'une déception, ne serait-ce qu'une tristesse ou beaucoup de colère. On a toute la palette d'émotions qui peut se présenter, surtout à l'arrivée. Par la suite, évidemment, là, il peut y avoir des différences ou non avec le comportement de la mère ou du père par rapport à l'enfant handicapé. Bien souvent, on pourrait dire même que la mère peut présenter ou se mobiliser, je dirais, beaucoup plus massivement que le père dans toutes sortes de soins à apporter à l'enfant. C'est un cas plus classique, mais en même temps, ça peut se produire aussi à l'inverse, que pour d'autres raisons, pour différentes raisons, le père va investir plus que la mère, mais évidemment, ça dépend toujours là, de l'histoire de la famille.
On jongle comment avec et les besoins de l'enfant handicapé et les besoins des autres membres de la fratrie?
Je dirais que c'est la question et c'est une question qui m'a beaucoup préoccupée justement dans ma recherche de doctorat, à savoir comment on peut en arriver à ultimement à un certain équilibre. Et je pèse mes mots sur certains équilibres. Parce que, évidemment, quand je disais tantôt, si un enfant présente un handicap assez majeur, assez sévère, on s'attend à ce que les parents, comme je disais tantôt, le ou les parents doivent se mobiliser, soit pour des soins physiques, soit pour des consultations à répétition chez les différents spécialistes, soit pour les déplacements, etc. Donc, c'est sûr que plus le handicap est sévère, plus s'impose, je dirais, un investissement des parents auprès de l'enfant, et plus, je dirais, on pourrait penser que ça peut interférer sur l'équilibre familial.
Oui. Avoir un frère ou une sœur handicapée, on le dit, ça engendre une panoplie d'émotions,
oui,
mais aussi des actions qui peuvent parfois laisser à interprétation. Je pense à un enfant qui voudrait un peu s'effacer, qui s'engage dans des activités à l'extérieur. Il faut s'interroger à savoir est-ce que l'enfant le fait vraiment par plaisir ou c'est pour peut-être enlever un peu de pression sur les parents.
Oui, ben en fait, oui, ce que vous décrivez, c'est c'est comme une réaction que j'ai d'ailleurs rencontrée dans certaines familles au moment de ma pratique auprès d'enfants handicapés et de la fratrie. Oui, il peut y avoir des enfants qui, tout à coup, ben peut-être pas tout à coup justement, mais qui, au fil du temps, réalise à quel point les besoins du frère et de la sœur sont grands. Alors, ben justement, eux vont démontrer qu'ils sont grands, mais grands dans le sens autonome, et qui vont, je dirais, vraiment prendre ou donner une image de maturité ou de plus grande maturité qu'en réel pour dégager les parents, comme vous le dites. Et ça, je pense qu'il faut avoir l'œil ouvert, comme on dit aussi,
oui,
à savoir est-ce que c'est si légitime que ça d'être autonome, de vouloir justement oui, trouver toutes sortes d'activités en dehors du milieu familial à un certain âge, oui, puis à un autre, moins.
Oui.
Alors ça, moi, j'encourage les parents à vraiment être attentifs de ce côté-là, oui.
J'ai l'impression...
Excusez-moi.
Oui, allez-y.
Si je pourrais ajouter aussi. Mais comme on peut il faut le dire, il y a vraiment, on peut rencontrer différentes réactions. Il y a aussi, vous me faites penser, il peut y avoir aussi des enfants qui décident pour différentes raisons de s'investir énormément dans les études. Alors, ils vont performer, ils vont avoir des résultats extrêmement spectaculaires. Et là aussi, des fois, les parents, sans s'en rendre compte, vont être effectivement très positifs et tout ça, mais vont penser que c'est vraiment le potentiel de l'enfant. Ils en sont très heureux. Mais derrière ça peut se cacher aussi une volonté soit d'attirer l'attention encore plus,
ouais,
Dégager les parents en disant « Non, moi, je suis capable de faire mes devoirs, j'ai pas besoin de support. » Donc, il peut y avoir différents objectifs derrière une ultra-performance.
Ouais. Différents cas. Bon, d'autres enfants développeront des problèmes de comportement. Tout ça peut-être dans le but d'attirer l'attention de l'enfant. Ce que j'ai l'impression, Georges Beauséjour, c'est qu'il y a la discussion, la communication qui demeure importante avec notre enfant, de lui demander peut-être assez clairement « Mais comment tu te sens? Est-ce que tu vis bien avec le fait d'avoir un frère ou une sœur handicapée? » On peut aller jusque-là avec notre enfant.
Oui, tout à fait. Et vous venez de dire un mot crucial, d'informer, discuter, communiquer. Moi, je vous dirais, c'est la clé dès le départ, parce que informer l'enfant d'abord et avant tout, qu'est-ce que son frère ou sa sœur a comme difficulté? Comment se fait-il que lui a cette difficulté-là et non l'autre enfant à côté? Bien souvent, même dès le départ, les enfants se sentent un peu perdus sur en train de voir que tout à coup, il y a un enfant qui arrive handicapé dans la famille et que lui est surtout pas handicapé. Il y a des multiples questions qui peuvent se poser et qu'on soupçonne même pas du style « Est-ce que ce handicap-là peut s'attraper?
»
Exemple.
Mm-hmm.
Est-ce que moi, ça peut m'arriver? Et comment se fait-il que je ne l'ai pas maintenant? Et est-ce que ça va arriver plus tard? Bon, donc, information, je dirais, évidemment, au niveau de l'âge de l'enfant, là, il faut s'ajuster, mais il faut, je dirais, par petite dose, donner l'information, communiquer avec les enfants. Et moi, je dirais aussi, voire même, que les parents se permettent jusqu'à un certain point aussi d'exprimer certaines émotions que eux peuvent avoir pour démontrer qu'on peut parler des émotions, qu'on peut vivre des émotions.
Ouais, et qu'on peut exprimer nos limites aussi, hein, parce qu'il
oui,
y en a.
Oui, tout à fait, effectivement, parce que, oui, vous me faites réaliser un autre aspect. Souvent, des parents vont presque devenir épuisés au bout complètement, mais devant leur enfant non handicapé, vont faire des efforts assez importants pour camoufler leur fatigue, camoufler leur tristesse ou camoufler leur colère par rapport à tout ça. Mais je ne dis pas qu'il faut que les parents étalent au grand jour toutes ces émotions à tous les jours, là, mais je pense qu'il faut leur permettre d'en exprimer et ça pourrait avoir comme impact que les enfants aussi vont en exprimer.
Ouais.
Le grand danger, c'est que si tout le monde se censure, les parents, les enfants, alors là, moi je dirais, c'est là que ça m'inquiète le plus dans les familles.
Oui. Le temps file malheureusement tellement de choses importantes à aborder ensemble, Georges Beauséjour, mais je pense et j'aimerais que l'on se quitte là-dessus. Si les parents sont le baromètre de la famille, il faut qu'ils apprennent à prendre du temps pour eux pour se reposer.
Tout à fait. Et là aussi, c'est un enjeu de taille parce que autant il faut les amener à reconnaître leurs limites et souvent les parents, par compassion, par générosité, c'est peut-être une des choses les plus difficiles, c'est de dire bon, est-ce que moi je peux me permettre pour un temps limité, encadré, que quelqu'un d'autre prenne le relais.
Mm-hmm. Voilà.
Et là aussi, moi, je vous dirais jusqu'à quel point l'importance, je dirais, de la famille élargie. Parce que bien souvent, les parents vont dire non, c'est moi là, le spécialiste. J'ai vu tous les spécialistes et je n'oserais pas laisser quelqu'un d'autre, aider mon enfant. C'est moi qui connais les bons moyens ou les bonnes façons. Alors donc, ils se donnent, une grande responsabilité.
Ouais.
Et à ce moment-là, c'est le grand risque, c'est qu'ils vont aller vers l'épuisement.
L'épuisement et un parent fatigué et malheureux engendre bien sûr une famille et des enfants moins bien. Georges Beauséjour, vous êtes psychologue, chef professionnel du service de psychologie du CHU Sainte-Justine. C'était tellement intéressant de vous parler. J'espère avoir la chance de le refaire bientôt.
Bien, merci beaucoup.
Merci.
Et bienvenue.
Au revoir.
Au revoir.